au long de ce week-end retrouver sur Grenouille la parole des habitants et acteurs locaux des conseils citoyens du centre-ville et des 15e et 16e arrondissements ouest. Tout de suite, la parole à un membre du conseil des 15e et 16e arrondissements ouest.
Voici le portrait de Solcam Tando, 47 ans, habitant de la Viste, technicien dans la téléphonie en reconversion vers l'éducation populaire. Solcam est président de l'école des Fabrettes, une école à pédagogie freinée.
Alors bonjour Solcam Tando.
Bonjour, bienvenue aux Fabrettes aujourd'hui, puisque dans le cadre des conseils des citoyens, Radio Grenouille est présente sur les Fabrettes, qui est une école à pédagogie freinée, qui se trouve dans la traverse de l'Arlésienne, près de Notre-Dame-Limite. Et j'en suis le président, et actuellement nous sommes en garderie. C'est pour ça qu'il y a un petit garçon qui va me donner un petit papier. Merci. On va le mettre de côté, et puis après on va le jeter. Hein, d'accord. Voilà, merci.
Et alors Solcam, décris-nous un peu cette pédagogie freinée.
Alors la pédagogie freinée, c'est basé, sans trop me tromper, sur l'échange et le partage, sur la démocratie. Et ici, à la maternelle, pour le moment, les enfants ne pratiquent pas encore la pédagogie freinée, c'est surtout au primaire. Voilà. Du coup, la pédagogie freinée, c'est une pédagogie qui se contextualise avec Célestin Freinet, qui est un instituteur, qui a décidé d'innover et de partir des besoins de l'enfant. Donc les besoins de l'enfant, c'est être acteur d'une pédagogie qui est différente et qui part de la motivation des enfants. Par exemple, un enfant qui joue à l'escargot, on va lui demander, à partir de l'escargot, par exemple, de faire des mathématiques pour mesurer la distance de l'escargot. On va s'intéresser à la biologie avec ce que mangent les escargots. Et puis ensuite, on va rire. Voilà, ça fait partie aussi de la pédagogie. L'apport au niveau de l'éducation nationale est assez intéressant. Ça change les enseignants de mode de fonctionnement. Il n'y a pas un rapport de hiérarchie horizontale, mais il y a plutôt une hiérarchie qui est une autorité en fait acceptée par l'enfant. Et il n'y a pas d'estrade, par exemple. Ça, c'est dans les principes de la pédagogie freinée. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une forme de travail collectif. Puisque à l'origine, si on regarde le système éducatif français, il faut se rappeler qu'au début de la Révolution française, il y avait deux types de courants qui se battaient, même plusieurs. Il y avait notamment le courant de Mirabeau et le courant de Condorcet. A savoir que c'est le courant de Condorcet qui a gagné, et du coup on se trouve dans un système un peu élitiste. À l'origine, le courant de Mirabeau, lui, était basé sur justement sur le fait que les enfants, quand dans le système éducatif, devaient être en collectif. C'est-à-dire que les meilleurs enfants devaient permettre aux plus faibles d'atteindre un niveau. Et le niveau était considéré comme global, sans forcément avoir d'évaluation. Donc à la constituante, les deux protagonistes se sont disputés, bien sûr, pour savoir quel serait le système éducatif qui allait gagner. Et il se trouve que Mirabeau avait annoncé ce qui allait se passer. Il a dit à Condorcet, vos élites, une fois qu'ils seront en place, ils vont garder le pouvoir pour eux et puis ça va se passer comme ça. Condorcet a répondu qu'absolument pas, que toutes les élites de la nation, en fait, seraient formées pour aider les plus faibles et donc dans ce cadre-là, que l'égalité serait quasiment un constat dans la République française. Bien sûr, après 200 ans, on peut se demander et s'interroger sur ce qui est devenu de ce postulat, et on peut s'interroger si Mirabeau avait pas raison. Alors, la pédagogie freinée, ça développe chez les enfants la curiosité, mais aussi le travail collectif. Ils sont un peu plus autonomes en général. Et, ils sont assez surprenants, parce que par exemple, dans le cadre des TAP qui ont eu lieu cette année dans les écoles marseillaises, les animateurs nous ont remonté qui demandaient par exemple « Mais c'est quoi cette activité ? Ça ne correspond pas forcément à mes besoins. Je préfère, c'est bien, mais ça ne me correspond pas, j'ai pas envie de la faire. » Donc ça les a interrogés sur leur capacité à se positionner et ils se sont rendus compte que c'est des enfants qui étaient en général un peu plus autonomes et surtout très responsabilisés. Voilà. On a aussi des activités pour les adultes. Et pour les adultes, on avait mis en place de la communication bienveillante, ce qu'on n'a pas fait cette année mais qu'on va refaire je pense l'année prochaine. C'est comment se positionner avec son enfant quand on a des conflits ou des problématiques en termes d'éducation à soumettre. comment on va travailler à la communication. Sachant que la communication, elle est basée sur un système qui ressemble à un nœud de Moebius ou un infini, c'est-à-dire qu'on est chacun sur un point de vue différent et on part pour aller voir ce qui se passe sur la colline de l'autre. Et entre les deux du nœud de Moebius, il y a un point de rencontre. Et ce point de rencontre permet de s'exprimer, qu'on soit en accord avec une personne ou en désaccord. C'est le principe de la communication bienveillante qu'on fait dans le cadre de nos ateliers.
Et alors toi, Solcam, tu vis dans le quartier de la Viste ?
Oui, alors moi j'habite au 132 La Viste, hein, pour dire généralement, je donnerai pas mon adresse précise, parce qu'avec mon prénom et mon nom, on va savoir de suite où je suis, mais grosso modo, je suis pas très loin de l'église, alors c'est assez intéressant. Il y a des enfants qui jouent très tard le soir, ça m'avait surtout déstabilisé la première fois où je suis arrivé dans ce lieu, puisque j'ai acheté en 2009 sur le quartier. Et si tu veux, ce qui m'avait surpris, c'est de voir des enfants jusqu'à 23h dehors. Donc ils jouent au foot sur la porte de l'église, donc... Quand on est un peu respectueux des monuments et tout simplement du culte religieux, on descend et on s'apprête à dire aux enfants il faut pas jouer et taper. Et puis là, on lit une petite pierre en marbre en fait, qui résume un peu la situation du quartier. Elle est dédiée au père Spinoza de cette église qui a travaillé pour les enfants et qui dit grosso modo quelque chose comme j'ai travaillé avec les enfants, donc je suis content de... que les enfants aient pu venir dans l'église et tout ça. Et en fait, on se rend compte que il doit rester peut-être ça et que on va laisser les enfants faire puisque au frontispice de l'église, il est marqué que les enfants étaient très importants pour ce monsieur qui a créé l'église. Donc c'est déjà un point d'entrée. Il faut savoir que là où j'habite, c'est un quartier qui est considéré comme un peu chaud. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés. Il y a 50% de jeunes qui sont au chômage. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences parce que... dans ce qu'on appelle l'économie entre guillemets souterraine ou autre, on voit qu'ils peuvent développer des talents et c'est un peu dommage qu'il y ait eu des systèmes de décrochage. Alors, il faut savoir que mon quartier est super bien situé parce que c'est un endroit où, si tu veux, il y avait des écrivains comme Stendhal qui sont venus et qui se sont arrêtés au 18e siècle et qui ont contemplé la vue de la Viste. Et il faut savoir que la Viste, en fait... c'était pas le quartier qu'on connaît avec les bâtiments, les blocs et autres, c'était un château également aussi. Et sur ce château, il faut savoir qu'il y avait, une particularité, c'était un domaine, le domaine de Foresta. Et ce domaine de Foresta, il reste en mémoire de tous les vieux habitants du quartier qui ont 80 ans et plus, puisqu'il y avait des laiteries avec des vaches. Il y a encore des endroits où si on se balade, on peut voir des traces de... d'écuries ou d'endroits où il y avait des vaches. Marseille, c'est ces villages qui se sont construits. Et donc, c'est cette magnifique vue qu'on appelle le belvédère. C'est pour ça qu'on parle du belvédère de la Viste, la belle vue. Et on voit encore mieux cette belle vue dans le jardin partagé, dans lequel j'ai la chance d'avoir un petit lopin, et qui donne sur la mer, en fait. Et c'est une vue magnifique au niveau du domaine de Foresta. Sachant que Foresta a eu le château n'existe plus à proprement parler, c'est là où il y a Carrefour Grand Littoral pour ceux qui connaissent, puisque au niveau de Carrefour Grand Littoral, avant, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, la commande en tour était à Foresta. Donc à l'issue de la guerre, le quartier a été complètement démembré, reconstruit, rénové, et là où se trouve mon bâtiment, a priori, il y avait une fabrique de plomb. Il faisait beaucoup de plomb et de céramique, donc ça a dû être dépollué. Et du coup, c'est un quartier assez pittoresque et assez insolite avec ses forces et ses faiblesses. Ses faiblesses, ça sera plutôt au niveau de la propreté, bien qu'il y ait des gens qui y travaillent. Il y a beaucoup de tags avec marqué, on peut avoir marqué un œil par exemple, pour indiquer qu'il y a une personne qui parle ou qui peut donner des renseignements, mais c'est pas que ça. C'est aussi beaucoup de personnes qui viennent aider, qui vous donnent un coup de main, qui vous gardent vos enfants quand il y a besoin, qui vont vous garder le courrier si nécessaire. C'est une vigilance entre voisins pour vérifier que tout le monde aille bien. Il y a une personne de plus de 80 ans qui est dans les bâtiments et à côté. Et du coup, on en prend soin, on regarde si elle est là. On l'aide quand les enfants te font des bêtises, on remet sa gouttière en place. Thank you. mon fils s'appelle Taikan. C'est un prénom d'origine japonaise. Alors moi, si vous ne voyez pas à l'écran, mais je suis d'origine aveyronnaise et tchadienne. Donc il faut s'imaginer un peu ce que ça peut donner. C'est assez intriguant, puisque je peux danser la bourrée et aussi avoir une vision un peu africaine de certaines choses. Mais j'aime bien, dans ce triptyque assez déjanté, j'aime bien le Japon, c'est une passion. Et du coup, Taikan, c'est le prénom d'un maître zen qui est encore vivant et qui se trouve à la falaise verte. Et bon, j'ai donné ce prénom à mon fils parce que je trouvais que ça très intéressant. Et c'est un prénom, en fait, qui a 250 significations, puisque les Japonais ne font pas les choses à moitié. Ça veut dire la poutre centrale de la maison en architecture, par exemple. Ça veut aussi dire la grande armada en matière militaire, donc au niveau des bateaux, ce sera un général d'armada ou une armada. Donc il me reste plus que 248 sens à découvrir, donc c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionné de Japon et que j'ai rencontré le Japon au travers des arts martiaux, et notamment d'un art martial qui s'appelle le Kyudo, le tir à l'arc martial japonais. Le Kyudo se résume en une maxime générale, Shizenbi, le beau, le vrai, donc beauté, vérité et sincérité, aussi principe Makoto. Donc c'est un art martial japonais qui, comme son nom l'indique, vise le plein épanouissement de l'être humain. Donc c'est très très engageant, parce qu'on répète, en fait, il y a un sketch de Bigard, hein, pour ceux qui ont entendu le sketch de Bigard, hein, qui se moque du Kyudo en disant que c'est très très lent. Mais cette lenteur, c'est un kata et ça s'assimile à de la méditation. Donc les katas permettent de rentrer en communion avec l'environnement, si je puis m'exprimer ainsi, si vous me l'accordez. Et du coup, on va tirer deux flèches à 28 mètres, sachant que les deux flèches doivent atterrir peu importe où. Ce qui importe, c'est l'intention qu'on met dans les choses. Bien sûr, il vaut mieux, dans l'idéal, qu'elles atteignent la cible. Chaque flèche a une symbolique et une signification et une façon de frapper la cible. Dans l'arc et dans la pratique de l'arc, c'est une pratique d'archerie pour ceux qui pratiquent à l'arc, il faut savoir qu'on retrouve tous les éléments liés à la vie. L'arc est en bambou, le végétal, la corde est en chanvre, mais les pointes de flèche sont en acier, le gant est en peau de cerf, c'est des cerfs qui se trouvent à Nara au Japon en général, et on utilise le cou pour faire des gants. Et les flèches sont réalisées avec des plumes d'oiseaux, tels que, par exemple, des aigles marins pour les pièces les plus appréciées. Alors on s'élance dans un kata qui va durer environ 20 minutes au maximum. Donc on s'approche de la cible par des mouvements qui ont, en fait, pour but de nous permettre de nous harmoniser avec les personnes avec lesquelles on tire, puisque ça se passe avec 5 tireurs. Donc les 5 tireurs s'amènent au niveau de la cible. Chacun, à son rythme, va tirer deux flèches, et on va essayer de tirer ensemble et de tirer en harmonie. Donc on apprend à percevoir les déplacements des gens qui se trouvent derrière vous, par exemple, pour être dans le bon temps, dans le bon intervalle de temps. Et aussi on apprend à développer quelque chose qu'on appelle en japonais le kokoro, qui est le sentiment intérieur de quelque chose dans une action. On cherche un geste parfait, sachant que la perfection n'existe pas, et que toute action humaine est bien sûr soumise à son contraire, à une petite erreur. Et là, je vous invite à lire Roland Barthes sur l'Empire des Sens, qui invite à découvrir le Japon. Pour revenir à l'éducation, le système japonais étant ce qu'il est, avec de grandes vagues de suicides, il y a quand même des choses à prendre et à laisser dans chaque chose. C'est vrai que le Japon a cette particularité d'avoir des gens qui sont très disciplinés, donc ça apprend la discipline, mais la discipline, c'est pas l'obéissance. Ça apprend l'efficience, c'est-à-dire à faire des actions qui sont justes. Pour une image, j'aime bien cette image de l'efficience, vous imaginez des liasses de billets qui s'envolent, et si vous êtes efficace, une personne efficace, elle va essayer de prendre le maximum de billets, et une personne efficiente, elle va prendre que les billets de 500 euros. Voilà. Donc l'efficience, c'est rechercher vraiment ce qui est le meilleur possible pour l'être humain. Et c'est une philosophie de vie. On apprend, on se rend compte que plus on veut quelque chose, plus la chose nous échappe. C'est comme le tir à l'arc. Plus on veut atteindre la cible, plus les flèches vont être à côté. Moins on pense à la cible, et bien sûr, plus les flèches sont centrées. Donc il y a quelque chose à découvrir dans ce paradoxe de l'archer dans nos vies. Quand on veut atteindre quelque chose, et des fois, il faut l'oublier, et puis ça vient naturellement et spontanément. Ce qui est assez intéressant à comprendre dans un chemin de vie. Thank you. Alors là, on est dans un jardin. J'en profite pour lire ce qui est marqué sur les murs parce que c'est quand même une base. Contribue aux efforts du développement économique de la cité en favorisant la création d'emplois, la formation qualifiante et l'insertion sociale. Qu'est-ce que la citoyenneté ? Le sentiment de se reconnaître dans une vie collective. Et c'est exactement ça, le sentiment de se reconnaître dans une vie collective.
Alors là, ça, tu l'as lu sur quoi là ? Sur une mosaïque ? Explique-nous un peu le jardin dans lequel on est.
Dans le jardin dans lequel on est dans un jardin de Miet, c'est ça ? Miette ? Miet Ripper, me dit-on. Et Miet Ripper est une artiste qui a fait un jardin qui est quasi féerique. Si vous aimez Alice au Pays des Merveilles, c'est un jardin qui participe de ce moment-là. Pour vous dire, au centre du jardin, il y a un périscope. Un vrai périscope de marine pour les enfants, pour pouvoir regarder l'horizon. Il y a également, on distingue un chapiteau corinthien. Chapiteau corinthien qui fait paraître la danse, puisque dans la civilisation antique, c'était la représentation idéale d'une femme, d'une danseuse. Il y a un chapiteau corinthien, donc il y a une présence humaine et architecturale. Et derrière ça, il y a une notion de rêve et de désir, puisqu'il y a une licorne sauvage, avec tout son harnachement. Et sur la gauche, il y a une représentation picturale du Japon, la vague d'Okusai, pour vous dire. Ensuite, on remonte ce petit jardin, on découvre des figuiers, des arbres insolites, des kakis. Il y a également un ancien endroit où nous sommes assis, qui était une cascade. Et tout autour de cette cascade demeurent et perdurent des phrases qui ont été écrites par les enfants et les citoyens qui ont contribué à l'élaboration de cette œuvre, qui est une œuvre citoyenne, il faut le dire. Ça permet de garder une trace écrite et d'une façon un peu intemporelle, de se rappeler tout simplement ce que c'est qu'être citoyen de nos jours. C'était valable dans les années où ça a été créé, ça reste valable de nos jours. Être citoyen, c'est participer à la vie de la cité. Et pour moi, participer à la vie de la cité, c'est s'investir. Si chacun s'investissait, ne serait-ce que 5 minutes, il y aurait énormément de choses qu'on pourrait faire. La citoyenneté, ça se vit, ça se découvre, et c'est grâce à l'éducation. Donc c'est important, du coup, dans le Conseil des citoyens, qu'il y ait une représentation au niveau des écoles et de l'éducation. Puisque l'éducation, sans éducation, eh ben, c'est comme une branche. Une branche, elle peut pousser sans tuteur, sans droiture, sans rien. C'est aussi possible, mais l'éducation, ça permet ça. Ça permet de s'ériger, de s'élever, et ça permet de donner le meilleur de soi-même. Ça, c'est une vocation philosophique et idéale très importante. Mais je pense que le Conseil des citoyens a cette vocation qui est cachée pour le moment, puisque pour des raisons de mise en œuvre simplement formelles avec des statuts très lourds. Imaginez-vous, on a travaillé pendant une année sur des statuts qu'on va en fait déposer, et ensuite on va s'attaquer aux grosses œuvres, c'est-à-dire à tout ce qui se passe sur le territoire, avec des difficultés d'accès au droit, comme on l'a vu, avec des impossibilités pour certains en matière d'éducation, peut-être d'entrer dans les écoles qu'ils veulent. Alors, on est à la croisée de la politique, mais je dirais, après tout, vivre dans la cité, c'est aussi être politique quelque part, c'est faire partir de la police, de cette cité. Récemment, j'étais à un comité de bassin, ce qui consiste à une réunion où il y a une trentaine d'associations sur le territoire. Il faut savoir que sur Notre-Dame-Limite, pour les gens qui ne voient pas trop le territoire, et ben, ça va de Caliste en passant par Castellane, Notre-Dame-Limite. Donc c'est un territoire qui est très très grand, et il y a environ dans le 15-16 100 000 âmes. Donc pour vous dire, je dis 100 000 âmes, je devrais dire 100 000 personnes, en étant plus citoyen. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des ressources sur le territoire qui sont inimaginable, incommensurable, dans la mesure où les gens ont des envies et ils les mettent en action, mais ils font ça sans moyens des fois. C'est ce qui est le plus remarquable, c'est-à-dire que là, on dit toujours « oui, il me faudrait tant pour faire ça ». Ben non, on n'a pas forcément les moyens de nos actions, mais on arrivera à mettre des choses en place parce qu'on a le temps pour nous. Et quand on a le temps pour soi, on peut réaliser plein de choses. Voilà.
Ici, on a plus le temps qu'ailleurs.
Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'ici, on a plus le temps. Ici, on prend plus du recul et on a le temps de ne pas vivre à 200 à l'heure. C'est un avantage et un inconvénient aussi. Mais ça permet de se positionner, ça permet d'aider, et ça permet d'être actif dans le Conseil des citoyens, et ça va permettre d'aller vite. Parce qu'il y a plusieurs méthodes pour faire les choses, mais quand on prend le temps de faire les choses, on peut prendre beaucoup de temps, mais une fois que c'est mis en place, ça va très 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 vite. Entre parenthèses, c'est aussi une méthode japonaise. Dans la gestion de projet, on décortique le projet dans toute sa minutie mentale. une fois que le projet est décortiqué, on le met en œuvre dans un temps très restreint. Ce qui fait que les temps s'équilibrent.
Là, effectivement, comme tu le disais, ce conseil citoyen, ça a commencé depuis plus d'une année, mais vous avez mis une année pour déposer les statuts, pour être avant tout informé. Et là, aujourd'hui, tu as l'espoir que vous puissiez agir de manière beaucoup plus rapide et concrète.
Alors, je ne parlerai pas d'espoir, hein, parce que l'espoir, ça me fait toujours penser à ce qui est resté dans la boîte de Pandore. Et pour tout vous dire, l'espoir, c'est ce qui reste dans la boîte de Pandore, et donc c'est un fléau. Non, non. Ce qu'on compte faire, c'est réaliser des choses concrètes, même si c'est des petites choses, mais concrétiser des actions. Parce que dans le discours politique, on parle beaucoup de choses, mais on ne les fait pas. J'espère que dans le Conseil citoyen, on pourra faire des choses, qu'elles soient petites, mais qu'on fasse des petits pas. Donc non, j'espère que le Conseil citoyen va servir à ça. En tout cas, on va tout mettre en œuvre pour construire des petits projets. Là, il y a un gros problème d'accès au droit qui a été remonté lors de la dernière réunion et qui nous interpelle tous, quoi, hein, à savoir... comment ça peut se passer pour les gens qui sont ce que j'appelle en misère numérique pour ma part, c'est-à-dire en incapacité d'accéder aux services publics via Internet. Parce que c'est beau Internet, c'est bien vendu, mais si derrière on ne met pas la formation pour que les gens ils puissent se servir d'une souris, eh bien on se trouve dans des impasses avec des gens qui ont des sommes à récupérer de 19 000 euros, comme disait Sonia du Conseil des citoyens, la MDPH, ou qui vont se trouver dans des impossibilités de remplir la feuille des impôts, ou qui vont encore avoir des soucis avec la CAF, avec la Sécu. Comme toutes ces administrations, pour raison d'économie qu'on peut comprendre, ont tendance à fermer, il faut aussi se poser la question de comment nous, au niveau du Conseil des citoyens, on peut apporter de l'aide à des associations qui facilitent l'accès aux droits. Donc on a un peu répondu à cette question-là. Et je ne peux pas trop en parler parce que c'est du travail collectif, mais pour vous donner une petite idée de ce qui est envisagé, c'est la contractualisation avec les administrations concernées. Ça peut être une solution pour trouver des réponses à ces problématiques et aider les gens à retrouver leurs droits. Parce qu'en fait, tout ça, ça crée de la frustration. Si vous allez aux impôts, qu'on ne vous répond pas, si vous allez à la CAF, que vous n'avez pas vos droits à la CAF, ben finalement, quand vous rencontrez votre voisin qui vous dit simplement bonjour, ça peut vite partir. Et on observe sur le territoire, c'est un constat qu'on a fait en comité de bassin, qui est juste au-dessous du Conseil des citoyens, on a fait le constat qu'il y avait de la fragilité psychique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les gens pétaient des câbles, entre guillemets, pour la bonne et simple raison que toutes ces petits désagréments quotidiens, ben, ils finissent par, au fur et à mesure, se rajouter, comme une pellicule. Et puis au fur et à mesure, au bout d'un moment, ben, la goutte d'eau finit par déborder. Et puis il y a aussi des choses simples. Bon, j'avais parlé en termes d'environnement, tout simplement le tri, des choses de base. La signalétique, est-ce que tu as vu des panneaux avec du solaire alors que dans les autres villes ça se fait? Pourquoi il n'y a pas de pistes cyclables? Pourquoi dans ce mieux-être ensemble, il n'y a pas des outils qui sont mis à disposition? Tu as des poubelles de tri recyclables à hauteur d'homme enfouies qui existent dans les quartiers sud. Dans les quartiers nord, ils ont commencé à en faire une au plan d'Arv. Mais... une, alors qu'il y a la Castellane, la Savine, la Caliste, la Viste. Il y a plein d'endroits où ça devrait être fait dans le cadre de la loi Henri et c'est pas fait. Pourquoi? Voilà, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. C'est au bout d'un moment, on se pose des questions, pourquoi? Mais c'est notre responsabilité de citoyen d'aller interroger pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a des freins, et d'obtenir une réponse ou de trouver une solution pour pas à pas, petit à petit, permettre aux gens de se trouver dans des endroits qui leur sont confortables, agréables, accessibles, avec des difficultés en moins, hein, parce que le quotidien est assez difficile dans les quartiers nord. Si on peut le simplifier, je pense que la mission du Conseil des citoyens sera aboutie et réussie si on arrive à faire que les choses aillent mieux pour les gens concrètement. Voilà. On a eu beaucoup de difficultés à se positionner parce que comme c'était nouveau, ben, personne ne savait à quoi ça servait. Et là, on est en train de définir des objectifs. Alors, je ne citerai pas Bourdieu qui disait qu'une fois qu'on a des objectifs, on peut faire une révolution, mais grosso modo, du moment qu'on a défini des objectifs, on va pouvoir avancer. Et ça, c'est important.
Merci beaucoup, Solcam, pour ce moment.
Merci à toi, et plaisir de te revoir, et merci Radio Grenouille. Merci.